Et donc, je laisse la parole à Julia.
Donc déjà, bonjour à toutes et tous. Donc, déjà, on est content de voir qu'il y a du monde parce que c'est assez rare qu'il y ait du monde pour ce genre de réunion. Donc du coup, je vais d'abord vous présenter le collectif des travailleurs et travailleuses de l'asile et ensuite vous parler un peu plus précisément de mon expérience qui est, je pense, juste un exemple en fait, de ce qui a pu arriver dans de nombreux centres, malheureusement. Donc déjà, le collectif en fait, des salariés de l'asile, c'est un collectif de salariés qui travaillent au contact d'exilés, syndiqués ou non, et on s'est constitué en octobre 2017. Donc nos objectifs, c'est la promotion de la liberté de circulation et d'installation, la défense d'un accueil digne et de qualité pour les personnes migrantes, la défense de nos conditions de travail face au durcissement des politiques migratoires, rompre l'isolement des salariés en créant un espace d'échange et de rencontre entre nous. Et aussi, on aimerait s'inscrire du coup dans le mouvement de défense du travail social, de son éthique et de ses valeurs. Donc par rapport à ce qu'on a déjà fait, on a fait aussi un communiqué d'interpellation sur la mise en place de Solasile à destination de nos employeurs. Solasile, c'est un logiciel qui a été mis en place par le GIP, le groupement d'intérêt public, dans les CHU migrants, dans le but de contrôler les places et qui était là et dans quelle situation ils étaient. Donc je reviendrai un peu plus tard dessus. On a organisé avec le collectif Asile Île-de-France deux temps d'échange et de formation autour du règlement Dublin à destination des travailleurs sociaux en contact des demandeurs d'asile. On a participé à la grève du 14 février aux côtés des travailleurs sociaux en lutte pour défendre nos métiers et les personnes accueillies. On a rejoint les salariés de l'OFPRA et de la CNDA devant le Conseil d'État pour dénoncer le projet de loi sur l'asile et l'immigration le 21 février 2018. On a aussi participé à une grève en particulier en fait, par rapport au retrait du projet de loi Asile-Immigration du 4 avril 2018. Donc aujourd'hui, le projet de loi il est passé. La question se pose de que faire après, parce que quand même, c'est une loi qui va faire mal et qui fait déjà mal. Concernant l'application, on a déjà certaines instructions qui sont parues le 11 septembre, d'autres à venir plus tard. Donc déjà, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des sanctions prévues pour les refus de prise d'empreinte qui sont de 1 an de prison, de 3 750 euros d'amende et avec une possible assortiment d'une interdiction du territoire français pendant 3 ans. Et on voit une criminalisation évidemment des demandeurs d'asile et des étrangers de façon générale avec un refus d'embarquer dans un avion qui peut être puni de 3 ans de prison avec une interdiction du territoire français pour 10 ans. Donc c'est quand même un changement assez radical. Il y avait déjà des choses prévues dans les lois précédentes, mais là, ça va être vraiment durci et appliqué. Et donc aussi le fait de revenir après un transfert dit Dublin, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand les gens qui travaillent dans l'asile ou des personnes qui accompagnent les demandeurs d'asile voient beaucoup de gens en procédure Dublin qui reviennent du pays d'expulsion, notamment l'Italie, on a beaucoup de gens qui reviennent d'Italie, et bien bientôt, le fait de se soustraire à l'exécution d'un arrêté de transfert, ça va devenir un délit puni de 3 ans de prison. Donc voilà. Donc non seulement vous faites arrêter en France, vous êtes placé en rétention, expulsé, mais au retour, vous pouvez aller en prison. Voilà un peu ce qui nous attend. En janvier 2019, ils ont prévu la mise en place des vidéo-audiences pour la CNDA, les audiences à la Cour nationale du droit d'asile. Donc on imagine bien que c'est quand même c'est pas génial. Là, il y a l'allongement de la durée de placement en rétention qui va passer à 90 jours, au lieu de 45 jours. Ils vont appliquer aussi la rétention des mineurs et fixer des lieux d'assignation à résidence pour les étrangers sous OQTF. Donc bon, c'est vraiment une grosse liste de gros changements bien répressifs. Tout ça, c'est vraiment ce qui nous attend et ce qu'on va devoir faire face. Plus particulièrement sur ce qui concerne mon retour d'expérience, donc moi déjà de façon plus anecdotique, il y a eu la circulaire aussi de lutte contre l'immigration irrégulière. J'ai pu voir avec les collègues de CADA, qui travaillent en CADA, une automatisation des obligations de quitter le territoire français pour toutes les personnes déboutées du droit d'asile. Avant, c'était pas forcément automatique de délivrer une OQTF à quelqu'un qui est débouté du droit d'asile. Aujourd'hui, en tout cas à Paris, c'est devenu automatique. Les gens, dès qu'ils sont déboutés, le jour qui suit, il y a l'OQTF. C'est vraiment très rapide. Ensuite, plus particulièrement, enfin mon expérience concerne plus la circulaire concernant les visites JIP-OFI-PREF dans les centres d'hébergement d'urgence. Donc au sein voilà, de ces CHUM. Donc il y a toujours eu dans les CHUM migrants des visites du JIP pour le recensement des personnes qui sont hébergées, des visites obligatoires, ou si les personnes, en tout cas auparavant, aujourd'hui, bon, c'est un petit peu changé, mais c'est pas pour autant que ça va bien, je reviendrai dessus, des visites où les personnes devaient être recensées, et si elles n'étaient pas là, elles avaient une fin de prise en charge. Et donc en décembre 2017, oui, cette circulaire est sortie, et ils ont commencé à visiter les centres d'hébergement, accompagnés de l'OFI et de la préfecture. Donc pendant mes congés en début d'année, quand j'étais pas là, donc j'étais pas là le jour même de la visite, mais je suis revenue 3 jours après. Et donc du coup, l'agent du JIP recevait chaque personne. Une fois qu'il avait une personne dont le récépissé était périmé, directement, elle était orientée vers l'agent de la préfecture qui prenait en photo le récépissé périmé. Et vraiment, il n'y avait pas d'issue possible pour les personnes. Ils étaient vraiment obligés de passer par la préfecture. Et donc, en fait, le gros problème, quand même, dans ce qui a suivi, c'est que le jour qui a suivi cette visite, la préfecture a envoyé un mail sur la boîte mail des travailleurs sociaux du centre, avec en copie la direction régionale de l'association pour laquelle je travaille, avec des mails nominatifs pour les personnes en procédure Dublin déclarées en fuite. Pour le 8e bureau, c'est-à-dire le bureau à cité qui place en rétention et arrête extrêmement souvent des étrangers sous procédure Dublin ou autre. Donc des convocations nominatives pour un groupe de personnes avec une liste d'hébergement en demandant aux travailleurs sociaux donc, de remettre les convocations pour être placés en rétention et de faire signer en même temps la personne la feuille d'hébergement et de bien vouloir renvoyer la feuille d'hébergement à la préfecture de police pour leur prouver qu'on leur avait bien notifié. Donc, c'était assez inhabituel, on n'avait jamais eu droit à un tel mail. Donc à mon retour, donc rien n'avait été fait dans les premiers jours quand j'étais pas là. Donc à mon retour, j'étais assez alertée, scandalisée, on ne savait pas trop quoi faire. Donc j'ai appelé ma chef de service qui pour le coup était assez scandalisée aussi en me disant « Bon, on va voir, j'ai une réunion là avec le supérieur dans l'après-midi, je reviendrai vers toi après pour voir ce qu'on fait. » Donc moi c'était assez clair, je disais « Mais moi c'est clair, je ne remets pas ces convocations, je ne suis pas un agent de la préfecture, je ne suis pas non plus la poste, je ne peux pas notifier un recommandé qui m'est envoyé par mail, notamment pour ce genre de choses. » Et donc la réunion, ce qu'on m'a dit c'est que ça ne changeait pas grand chose, que je devais le faire, et qu'avant c'était à peu près pareil, parce que le JIP transmettait les informations à la préfecture et à l'OFI, donc quand ils venaient c'était à peu près la même chose qu'avant en fait. Je dis oui, mais sauf qu'avant, après les visites du JIP, tout ce qu'on avait c'était des orientations en CADA pour les personnes qui étaient en demande d'asile, ce qui n'est pas forcément mauvais, et on n'avait jamais eu, enfin les personnes en procédure Dublin ou qui étaient en fuite n'avaient jamais eu de conséquences négatives, enfin, elles continuaient à être hébergées, elles attendaient la fin de leurs 18 mois si elles étaient en fuite, et puis voilà. Donc on me disait que ça changeait rien, que je devais le faire, que c'était pareil avant. On m'avait demandé aussi si j'avais fait les recours contre les procédures Dublin, parce que ça devenait de ma faute. Et on m'a aussi dit que ça serait de ma faute si les personnes avaient des répercussions négatives sur leur procédure parce que je ne leur avais pas remis les convocations. Je dis, ah, déjà, de toute façon, ça serait pour être placé en rétention, je ne vois pas comment ça peut être pire. Donc ça serait en plus de ma faute si je ne leur donne pas. Ils sont déjà en fuite et vous voulez les placer en CRA, donc je ne vois pas comment ça peut devenir pire. Donc à la suite de ça, ma hiérarchie a compris que je ne donnerais pas les convocations. Donc ce qu'elles me disaient, elles essayaient de négocier avec la préfecture, mais sans vouloir être mal vues. On ne peut pas donner les convocations, on ne peut pas faire émerger, mais envoyez-leur plutôt en recommandé à leur adresse. Donc les personnes n'étaient pas domiciliées chez nous. Et c'est des adresses que la préfecture, elle avait, puisqu'elles avaient déjà eu des arrêtés de transfert et compagnie, des récépissés. Donc leur adresse FTDA, par exemple, dans le 18e, la préfecture est censée les avoir. Je ne vois pas pourquoi ce serait moi de les donner. Donc j'ai dit non, je ne donnerai pas les adresses non plus à la préfecture. En plus, elle les a. Si elle se met à chercher un peu, elle peut les retrouver et les envoyer elle-même. Et donc du coup, mon employeur était assez, savait pas trop quoi faire parce qu'il voulait pas dire non à la préfecture, on le fera pas. Donc du coup, ils essayaient de dire, bah envoyez-leur, on va vous donner leurs adresses. Et donc, s'en est suivi une longue période où on me demandait tous les jours de donner les adresses de domiciliation des personnes, où je continuais de dire, bah non, si c'est pour faire ça, non, je vous les donnerai pas. Et puis la préfecture les a en plus, donc je vois pas pourquoi je le ferais. Ça changerait rien. Juste accélérer les choses pour eux. Merci bien. Donc c'était des mails, des appels où on me prenait à part dans une salle pour me dire bon, faut quand même qu'on mette de l'eau dans notre vin. Voilà, c'est 6 personnes. Oui, c'est 6 personnes justement. Donc voilà, au bout d'un moment, donc ça a duré quand même quelques semaines. Il y a aussi, à cette période, il y a eu la grève du 14 février. On était 3 collègues à être en grève dans la section asile de ma boîte. Et 3 collègues, donc 2 d'un CADA aussi. Et après cette grève, le lendemain, on a reçu un mail aussi du directeur général qui nous invitait à discuter des raisons de la grève. En gros, c'était une convocation. Donc suite à une grève aussi, on avait rarement vu des convocations des salariés suite à une grève. Donc ce qu'on leur avait répondu, c'était ben non, mais par contre on a en fait tous les salariés de l'asile de notre boîte ont des choses à vous dire sur cette circulaire et sur la réforme qui est en ce moment, la raison de notre grève aussi. Donc ça serait mieux de faire une réunion tous ensemble pour en parler. On n'a jamais eu de réponse. Visiblement ça l'intéressait pas plus que ça de discuter sur les raisons de notre grève et etc. Donc ensuite, tout s'est calmé à partir du moment où le Conseil d'État en fait a vidé la circulaire quand même de son contenu et qui a retiré le caractère de contrainte dans ses visites. Et donc dès que la décision est tombée, donc j'ai jeté à mes supérieurs en disant vous voyez bien, on avait raison de pas le faire et on le fera toujours pas. Donc là ça s'est calmé à partir de ce moment-là. Mais bon c'était plutôt assez intense quand même à cette période. Et puis entre temps on a quand même eu un changement de hiérarchie, donc on espère qu'aujourd'hui ça ira un peu mieux. Par rapport à tout à l'heure je parlais du logiciel Solasile, donc c'est un logiciel qui a été mis en place par le GIP, comme je disais tout à l'heure, le groupement d'intérêt public, et c'est un but de contrôle des situations et du nombre de places, comme le DNA, le dispositif national d'accueil géré par l'OFI pour les demandeurs d'asile et les places en CADA. Et donc en fait, le GIP, du jour au lendemain, nous a envoyé des identifiants nous demandant de rentrer les informations personnelles des personnes hébergées dans notre centre et de le mettre à jour régulièrement dès qu'il se passait le moindre chose dans leur vie, sans prévenir les personnes qui ont rentré des informations très personnelles sur leur situation à quelqu'un qu'on ne sait pas trop qui a accès à ce logiciel. Dans certains centres, c'est le chef de service qui doit le remplir. Dans d'autres, c'est les travailleurs sociaux, mais rien n'est clair. Donc ça, c'est un logiciel qui a été... Il y a eu pas mal d'inquiétudes voilà, sur qui a accès aux informations de ce logiciel, l'OFI, la préfecture. Rien, et personne ne nous répondait. On nous disait juste « Non, il est déclaré à la CNIL, il est autorisé. » Oui, d'accord, certes, mais on n'informe même pas les personnes qu'on rentre ces données, et c'est des données plutôt sensibles quand même. Donc on s'est demandé voilà, aussi sur les conséquences qu'il pourrait y avoir. Donc si on met qu'il y a une convocation à la préfecture, que la personne ne veut pas y aller parce que par exemple elle ne veut pas prendre le risque d'être placée en rétention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des fins de prise en charge automatiques si la personne n'y va pas? Enfin, voilà, il y a pas mal d'inquiétudes quoi. Et encore une fois, aucune communication avec les personnes hébergées sur ce qu'on rentrait sur eux, ce qu'on en faisait et qui avait accès à ça. Mais en même temps, c'est un logiciel qui a l'air assez inefficace et j'ai l'impression, pour en discuter avec d'autres collègues, qu'il n'est pas du tout rempli par la plupart des gestionnaires. C'est assez mal rempli ou peu et le GIP n'a pas l'air de trop gérer l'affaire. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des discussions au-dessus en se disant ça fait partie aussi d'un ensemble en fait, de choses. Peut-être que certains sont au courant, mais les CHU migrants en fait, vont se transformer en UDA. Les hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile. Et donc ça rentre aussi dans cette même dynamique que Solasile, c'est pour contrôler les gens et on n'y arrive pas. Donc les CHU migrants, on voulait contrôler les gens, mais on n'y arrive pas trop en fait non plus, parce qu'il y a cette histoire d'accueil inconditionnel où parfois les gens restent même dans des situations où ils voudraient pas que, enfin l'État voudrait pas qu'ils restent, mais les gens restent. S'ils reviennent d'Italie, s'ils sont en fuite, plein de choses comme ça. Donc les CHU migrants se transforment en UDA, en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, donc des CADA low cost, en gros c'est ça, avec des prix de journée de 25 à 35 euros la journée. Ce qui est extrêmement bas, avec du coup forcément on peut s'attendre à des équipes sociales qui sont déjà peau de chagrin dans les CHU migrants, bah là ça va être encore pire. Et la chose la plus inquiétante, c'est l'inconditionnalité de l'accueil qui est complètement remis en question, parce que du coup si c'est un UDA, c'est comme un CADA, on rentre si on est demandeur d'asile et on en sort, si on est débouté on sort directement, si on est réfugié on sort au bout de 3 mois. Et les Dublin, là aujourd'hui dans la circulaire, on dit qu'à partir de la décision de réadmission dans le pays de Dublin, la personne ne peut plus être hébergée en UDA. Donc du coup, sachant que dans les CHU migrants, c'est 80% de procédures Dublin, avec assez peu aussi d'expulsions, parce que bon, il y a quand même des voies de recours et il y a des gens aussi qui ne se présentent pas, etc. On peut s'attendre à se demander quel type de public ils peuvent accueillir si on n'accueille pas de Dublin, quoi. Ou que les Dublin ne seront plus accueillis dans les CHU migrants, dans ces futurs UDA. Ça pose la question de où ils vont être accueillis, s'ils vont être accueillis, parce que... En tout cas, le cadre comme il est aujourd'hui ne permet pas du tout un accueil comme il y a aujourd'hui dans les CHU migrants, qui était déjà pas terrible. Mais alors là, c'est très très alarmant sur la population qui est déjà dans les CHU migrants, qu'est-ce qu'elle va devenir. Et juste un exemple, dans notre centre, on a 13 bénéficiaires d'une protection internationale et des réfugiés qui sont là parfois depuis un an ou un an et demi, qui n'ont pas eu de solution de relogement, etc. Donc qui restent dans le centre parce qu'il n'y a pas de prise en charge tant qu'il n'y a pas de proposition. Là aujourd'hui, on a 10 orientations dans un CHU spécial réfugiés. Donc ils sont déjà en train de faire de la place avec toutes les personnes qui ne devraient pas rester chez nous et qui n'ont pas vocation à rester dans un futur UDA. Donc c'est quand même, on se demande un peu ce qui va se passer avec ce prix de journée. Et c'est censé être un changement très rapide pour le 1er janvier 2019, avec aucune, on est mi-novembre, mi-octobre, et on n'a aucune visibilité sur à quoi on va ressembler juste en janvier, dans 2 mois, quoi. Ce qui est demain. J'ai fini, c'est déjà assez pessimiste, je crois. Mais bon, il y a du travail, quoi.